VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 19h30 temps universel. On est vendredi 2 février 2018. Au sommaire, le gouvernement tchadien annonce une coupe sur les salaires des fonctionnaires grévistes. Après des semaines de manifestations, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition démarre le 15 février au Togo. La police kényane arrête un autre membre de l'opposition après l'investiture symbolique de Raila Odinga. 90 migrants portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Et ici aux États-Unis, un rapport secret des républicains au Congrès accablant le FBI a été rendu public. Les démocrates mettent en garde le président Donald Trump. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Tout d'abord, le journal. Climat tendu au Tchad suite à de nombreuses manifestations et grèves de la fonction publique face aux mesures d'austérité et l'État ne prévoit pas le paiement pour les jours de grève. Le point avec Raïssa Girondin.
Au cinquième jour de grève générale des fonctionnaires, le gouvernement a annoncé qu'il va déduire les jours non travaillés sur le salaire des grévistes. Pour le Premier ministre Paimi Padake, tous les chefs de département doivent recenser les agents absents et retirer de leur salaire les jours de grève. Il a ajouté que les forces de l'ordre répondraient à toute sortie intempestive de jeunes instrumentalisés et manipulés politiquement. Lundi, les syndicats tchadiens avaient appelé à la grève générale et illimitée dans le secteur public. Les fonctionnaires ont découvert que leur salaire de janvier ont été réduits. Les récentes mesures d'austérité imposées par le gouvernement et la montée des prix du carburant ont été les déclencheurs d'une grogne sociale. Par ailleurs, une nouvelle plateforme syndicale exhorte les employés du secteur privé à observer 2 jours de grève à partir de lundi en solidarité avec les fonctionnaires.
En République démocratique du Congo, Crespin Attapa Thabé, ministre de la Défense, a confirmé que son pays souhaite l'extradition d'un ex-colonel interpellé en Tanzanie et accusé de rébellion. John Chibangu sera extradé, c'est le résultat d'une coopération judiciaire qui lie nos deux pays, a indiqué le ministre congolais de la Défense. Ses proches en France, qui disent craindre pour sa vie, ont invité la Tanzanie à ne pas donner de suite à cette demande. La Centrafrique a formulé à la République démocratique du Congo voisine une demande d'extradition concernant Romaric, un des chefs des Antibalaka de Bangassou, qui avait fui vers la RDC où il a été arrêté. La demande d'extradition est partie par voie diplomatique, a déclaré le ministre de la Justice centrafricain Flavien Mbata. Le chef Antibalaka est poursuivi en RCA pour, entre autres, crimes de guerre, assassinats et association de malfaiteurs. Au Togo, le dialogue entre l'opposition et le pouvoir s'ouvre le 15 février à Lomé, annonce des représentants guinéens et ghanéens, pays médiateurs dans la crise politique. Le point avec Solange Nyamulisa.
Le ministre ghanéen de la Sécurité, Albert Kahn Dampa, et le ministre d'État guinéen, Thibaut Camara, ont indiqué que cette date a été retenue de commun accord avec les principaux acteurs. Les médiateurs étaient à Lomé pour des consultations avec le gouvernement et la coalition de 14 partis d'opposition. Ce dialogue annoncé depuis début novembre 2017 par le gouvernement a eu du mal à démarrer. L'opposition a exigé des mesures d'apaisement comme le retour des forces de sécurité dans les casernes et la libération de personnes arrêtées. D'après les deux ministres, tous les acteurs togolais ont convenu de la suspension des manifestations à partir de la publication de la date du dialogue jusqu'à sa tenue et pendant son déroulement. Mais des milliers de personnes ont encore manifesté hier à Lomé et dans certaines villes pour protester contre l'accaparement du pouvoir par une seule famille des Nyansimbé depuis plus de 50 ans.
Au Sénégal, le tribunal correctionnel de Dakar a rejeté la demande de liberté provisoire du maire de la capitale, jugé pour détournement de fonds publics. Après 2 semaines de débats de procédure, le tribunal correctionnel de Dakar s'est également déclaré compétent pour juger Khalifa Sall et 7 de ses collaborateurs. Brièvement ouvert le 14 décembre et reporté à plusieurs reprises, le procès du maire de Dakar a effectivement démarré le 23 janvier. Le président français Emmanuel Macron est en visite officielle au Sénégal, axée sur l'aide internationale à l'éducation. et à la lutte contre l'érosion côtière. Dans son plaidoyer devant la 3e conférence du financement du partenariat mondial pour l'éducation qu'il parraine conjointement avec le président sénégalais Macky Sall, il pourra compter sur le soutien de Rihanna qui se trouve dans la capitale sénégalaise. Le partenariat mondial pour l'éducation est à la recherche de 3,1 milliards de dollars pour la période 2018-2020. La police kényane a arrêté ce vendredi un autre membre de l'opposition lors d'un raid mené à l'aube pour son implication dans l'investiture symbolique de l'opposant Raila Odinga qui s'est présenté comme président du peuple. Salwa Jafari.
Un raid spectaculaire, les membres de la police lourdement armés ont défoncé la porte du domicile de Miguna Miguna à l'aide d'explosifs. C'est le deuxième opposant arrêté après le député TJ Kajwang pour avoir participé mardi à la prestation de serment symbolique de Raila Odinga qui refuse de reconnaître la réélection du président Uhuru Kenyatta, estimant que la victoire lui a été volée. Suite à la cérémonie d'investiture organisée devant des milliers de partisans de l'opposition à Nairobi, le ministre de l'Intérieur, Fred Matiang'i, a qualifié d'organisation criminelle le mouvement de résistance nationale lancé par l'opposition pour mettre en œuvre un programme de désobéissance civile. Par ailleurs, trois chaînes de télévision sont toujours suspendues pour avoir voulu retransmettre l'investiture de Odinga. Un tribunal de Nairobi a ordonné que ces chaînes soient autorisées à reprendre l'antenne, mais le gouvernement refuse d'appliquer ces décisions.
Environ 90 migrants pourraient avoir disparu en mer lorsque leur bateau a coulé au large des côtes libyennes. Selon l'OIM, la majorité des migrants étaient des Pakistanais. 10 corps ont échoué sur les côtes libyennes, dont 8 Pakistanais et 2 Libyens. Et il y a 3 survivants, a déclaré une porte-parole de l'OIM à Genève. En 2017, plus de 3 000 Pakistanais sont arrivés en Italie après avoir traversé la Méditerranée depuis la Libye, selon l'organisation.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a déclassifié une note confidentielle et controversée rédigée par un élu républicain critiquant l'attitude du FBI. Le document a été rendu public. Le point avec Timothée Donangmaï.
Elle a été déclassifiée. Nous verrons ce qui se passera, a affirmé M. Trump depuis le bureau ovale, ignorant ainsi les mises en garde du patron de la police fédérale, le FBI, contre une telle initiative. Interrogé spécifiquement sur le sort du numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, qui joue un rôle crucial dans l'enquête russe, dans la mesure où son patron, le ministre Jeff Sessions, s'est récusé dans ce dossier, M. Trump a laissé planer le doute. Christopher Wray, actuel directeur du FBI nommé par M. Trump, avait clairement indiqué qu'il n'était pas favorable à cette publication. Le ministère de la Justice avait lui aussi fait part de ses réserves pour des raisons de sécurité. La note a été rédigée par le controversé président républicain de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, David Nunes, et ce contre l'avis des membres démocrates de sa commission à partir d'informations secrètes.
Les responsables de l'opposition démocrate ont solennellement mis en garde Donald Trump de ne pas prendre pour prétexte la publication de cette note mettant en cause l'FBI pour limoger les principaux responsables de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle. Limoger Rod Rosenstein, le numéro 2 du ministère de la Justice, des dirigeants du ministère ou Bob Mueller, le procureur spécial en charge de l'enquête sur l'ingérence russe, pourrait créer une crise constitutionnelle sans précédent. Depuis l'ère Nixon, avertissent les leaders démocrates au Congrès dans une lettre au président. Le père de 3 des nombreuses victimes de Larry Nassar a tenté de se jeter sur l'ex-médecin de la Fédération américaine de gymnastique, jugé pour agression sexuelle provoquant l'interruption de l'audience qui se déroule dans le Michigan. L'homme s'est précipité en hurlant vers l'accusé après avoir entendu 2 de ses 3 filles témoigner sur les abus sexuels dont elles ont été victimes. mais il a été plaqué au sol par les policiers avant d'avoir atteint le thérapeute. L'arinasseur a accusé d'avoir abusé au moins 265 jeunes pendant une période de 20 ans. Les États-Unis soupçonnent l'utilisation du gaz sarin récemment en Syrie. C'est ce qu'a déclaré le ministre américain de la Justice. Du chlore a été utilisé à de nombreuses reprises dans des attaques en Syrie, a indiqué James Mattis. Des ONG et des groupes rebelles disent que du gaz sarin a été utilisé. Nous cherchons donc des preuves, a poursuivi M. Mattis. Je n'ai pas de preuves, a-t-il cependant reconnu. Les autorités turques ont interpellé 13 personnes accusées d'avoir soutenu sur les réseaux sociaux un texte opposé à l'opération militaire menée en Syrie. Selon plusieurs médias turcs, les personnes arrêtées sont accusées d'avoir apporté leur soutien à un texte publié la semaine dernière par l'Union des médecins de Turquie, qualifiant la guerre de problème de santé publique et se terminant sur l'injonction « Non à la guerre, la paix maintenant et partout ». Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et on passe à l'actualité économique, la Minute Éco avec Eric Manerekiza.
L'Afrique connaît une urbanisation rapide. Cette dynamique est liée à une croissance démographique fulgurante et un déséquilibre entre le développement des zones urbaines et celles rurales. La population est passée de 237 millions en 1995 à 472 millions en 2015. Ils seront près d'un milliard à résider dans les villes du continent d'ici 2040. Le continent africain est l'avenir de l'industrie mondiale de la bière. La valeur du marché de la bière est estimée à 13 milliards de dollars. La moyenne annuelle de consommation par individu est de 9 litres. L'Afrique du Sud est le principal marché avec plus de 30 millions d'hectolitres par an. Le Nigeria arrive au second rang et l'Angola occupe la troisième place. Le Cameroun, la RDC, le Mozambique, la Tanzanie et le Kenya complètent le classement. La Tunisie s'attend à une augmentation du nombre de touristes britanniques en 2018. Fin juillet, Londres a assoupli ses recommandations aux touristes britanniques se rendant en Tunisie. Ceci a mis fin à la consigne d'annuler tout voyage non essentiel vers la Tunisie et dans les principaux sites touristiques. Le voyagiste Thomas Cook reprend sa desserte de la Tunisie à partir du Royaume-Uni en ce mois de février.
La page des sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Sous pression de la FIFA, la CAF n'apporte pas officiellement son soutien au Maroc.
Oui, la Confédération africaine de football a respecté les consignes de neutralité de la FIFA pour le processus de sélection du pays organisateur du Mondial 2026 en s'abstenant de prendre position publiquement en faveur du Maroc. C'était aujourd'hui à Casablanca. Le Maroc espérait que la 40e Assemblée Générale de la CAF soit l'occasion d'un soutien ouvert à sa candidature présentée au nom du continent africain face au trio États-Unis, Mexique et Canada. Oui, mais voilà, à l'ouverture des débats, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a appelé les délégués à, je cite, respecter leur obligation de neutralité. La FIFA, on s'en souvient, avait adressé une récente circulaire aux 211 représentants des fédérations membres qui doivent trancher le 13 juin entre le Maroc et le trio États-Unis, Mexique, Canada. L'Assemblée générale de la CAF coïncide également avec le CHAN 2018, vous le savez, organisé par le Maroc. On rappelle que la finale aura lieu dimanche entre le Nigeria et le Maroc, pays organisateur.
Une skieuse kenyane au JO d'hiver 2018.
Et oui, la kenyane Sabrina Wanchiku Simader, elle deviendra lors de ces Jeux olympiques de Pyeongchang la première skieuse africaine à disputer les Jeux olympiques d'hiver. Elle s'est déclarée honorée à seulement 19 ans. Cette jeune femme s'est qualifiée pour les épreuves de super-G et de slalom géant lors des championnats du monde à Saint-Maurice en Suisse. Elle sera la seule représentante du Kenya. Ce sera du 9 au 25 février prochain en Corée du Sud.
Et enfin NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Nuggets de Denver se sont imposés sur le fil contre Oklahoma City, 127 à 124, au terme d'un final haletant et malgré les 43 points de Paul George. Les Raptors de Toronto ont laissé échapper une victoire en fin de match. Ça s'est passé à Washington où les Wizards ont gagné 122 à 119. Les Spurs de San Antonio ont subi une cinquième défaite à domicile cette saison face à Houston, 91-102. Et puis Minnesota, quatrième de la conférence Ouest, a passé une soirée tranquille en battant Milwaukee, 108-89.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. On passe au dossier du jour. Au Togo, la date d'ouverture du dialogue politique est annoncée pour le 15 février. Plusieurs manifestations ont eu lieu hier à Lomé et dans certaines villes de l'intérieur. Pour analyse, Délidico a joint Magloire Kwakouvi, militant pour la justice à Lomé.
Il est difficile de répondre à l'heure actuelle parce que le pays était dans une perspective à deux vitesses pendant que l'opposition marchait pour exiger à la fois le dialogue et le retour à la constitution de 92. L'État, lui, préparait tranquillement les élections pour un référendum sur son projet de réforme avec quatre articles, dont le dernier dit que une fois que la loi aura été adoptée, il n'y aura pas de rétroaction. Donc on ne sait pas. Les deux disent qu'ils sont prêts au dialogue, mais pendant que les autres marchent et réclament quelque chose, les autres préparent les élections.
L'opposition organise des manifestations quasi hebdomadaires depuis 5 mois. Mais elle a convenu de la suspension des manifestations dans le cadre des consultations qui ont eu lieu le 31 janvier et le 1er février. Donc, pensez-vous que les populations vont s'y tenir ?
Les populations sont réceptives actuellement à ce groupe de 14 partis. Lorsque ce groupe de 14 partis dit quelque chose, la population suit. La preuve, c'est que hier, toutes les marches se sont terminées autour de 15 heures, parce que quand les gens retournent au crépuscule de manière dispersée, on en profite toujours pour les tabasser ou leur faire des malheurs. Donc si la coalition des 14 partis dit qu'il n'y a plus de marche, personne ne bougera jusqu'à leur nouvel appel.
Ok, et au niveau des dossiers de priorité, donc le communiqué de presse disait que les deux délégations médiatrices, donc le Ghana et la Guinée, ont indiqué que les préoccupations prioritaires lors de l'ouverture du dialogue seront la situation des personnes détenues dans le cadre de l'affaire de l'incendie
des marchés,
le marché de Kara et de Lomé, ainsi que les manifestants en détention depuis 5 mois. Pensez-vous que ces personnes-là seront libérées en signe de bonne foi du gouvernement ?
L'État a libéré des gens, mais pas ce que la coalition attendait. Donc si on a mis ça dans le communiqué, ça veut dire que le gouvernement a dû donner des gages de garantie pour que l'on rende au moins public cette discussion prioritaire. Donc on peut dire que le verre est à moitié plein.
C'était Magloire Kwakouvi, activiste pour la justice au Togo.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les présidents sénégalais Macky Sall et français Emmanuel Macron ont signé aujourd'hui à Dakar une série de contrats dont la vente de 2 Airbus à la compagnie Air Sénégal pour un montant de 214 millions de dollars et la création d'un campus universitaire franco-sénégalais. Pour savoir les raisons de cette augmentation des investissements français au Sénégal, Eric Manirakiza a joint à Dakar le journaliste et analyste politique Maïdian Beldjian.
Il faut dire que ces dernières années, on a constaté un retour effectivement de la France dans le cadre de partenariats économiques et aussi d'investissements au Sénégal. Il faut dire quand même qu'il n'y a jamais peut-être eu de rupture, mais le flux des investissements français s'est accru ces dernières années avec de gros contrats qui ont été conclus avec l'État du Sénégal, notamment dans le cadre du financement de la réalisation d'infrastructures hospitalières et aussi dans le cadre de la réalisation d'un projet de train express régional. Ça a pu doper vraiment les investissements français au Sénégal. Quand même la continuation d'un partenariat historique, mais aussi le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays, les relations cordiales et assez proches entre les présidents Macron et Macky Sall semblent aussi conforter cette dynamique-là.
Quelle est la place de la France par rapport à d'autres investisseurs, notamment la Chine ou d'autres pays arabes?
Il faut dire que la France reste le premier partenaire économique du Sénégal, de loin d'ailleurs. C'est vrai, le Sénégal avait commencé à diversifier ses relations économiques avec de nombreux autres pays du monde, comme la Chine, comme vous citez, ou d'autres pays arabes. Il y a aussi dernièrement la Turquie aussi qui a commencé à beaucoup travailler au Sénégal, mais quand on regarde le volume des investissements, la France est encore de loin le premier partenaire économique du Sénégal.
Y a-t-il un privilège particulier accordé à la France ou la concurrence est ouverte à tous les pays qui voudraient investir au Sénégal?
Non, il faut dire que la concurrence est bien ouverte. La volonté de diversification des partenaires économiques est affichée par le gouvernement du Sénégal et la Chine. Je pense que maintenant, tout dépend de l'intérêt que les autres pays peuvent avoir à investir au Sénégal. Est-ce que le marché sénégalais est assez attractif pour certains pays ou pas? Quelles sont les motivations de l'investissement français dans notre pays? Peut-être l'ancienneté des relations, la proximité culturelle et l'orientation politique diplomatique peuvent aider à ce que la France peut-être puisse investir plus que d'autres pays au Sénégal. Mais il n'en demeure pas moins que les investissements étrangers en dehors de l'espace francophone, au-delà de la France, mais aussi au-delà de l'espace de l'Union européenne, commencent à être importants. La Chine, l'Inde, les pays arabes et aussi dans d'autres continents, comme les États-Unis, comme le Brésil, comme le Canada, investissent de plus en plus au Sénégal dans divers secteurs d'activité.
C'était le journaliste sénégalais Madiambe Diagne, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Ouverture de la conférence des hommes et femmes d'affaires libanais exerçant en Afrique aujourd'hui à Abidjan, une première en Côte d'Ivoire. Regroupant plus de 500 personnes, cette rencontre dénommée Lebanese Diaspora Energy vise à attirer plus d'investisseurs en Afrique. Blanche Sanou a joint à Abidjan Daniel Brecha, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
Quand on parle d'opérateurs économiques libanais, c'est bien entendu pour faire du business, voir comment on peut mieux gagner de l'argent. L'objectif second est de peut-être d'avoir une visibilité, un meilleur contact avec les autorités ivoiriennes, les opérateurs économiques ivoiriens. Essayer peut-être de diffuser un peu aussi la culture et la culture économique libanaise en Côte d'Ivoire.
Quelle est l'importance de la communauté libanaise dans la vie sociale et économique en Côte d'Ivoire?
Au moins 30 à 40% de l'économie ivoirienne est entre les mains des opérateurs économiques libanais ou ivoiro-libanais.
Ils sont dans quel genre d'activité précisément en Côte d'Ivoire?
Dans tous les domaines. Petite industrie, grosse industrie. Pendant longtemps, ils étaient juste dans le commerce, import, export, etc. Mais il y a des groupes libanais importants qui se sont créés, que ce soit dans l'agroalimentaire, dans l'industrie du fer, du plastique, et puis, bien entendu, maintenant, dans la grande distribution.
Est-ce que, rapidement, vous pouvez nous faire une lecture un peu des relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Liban aujourd'hui?
Oui, bon, les relations économiques sont bonnes parce que, bon, les opérateurs économiques libanais sont, certains sont installés depuis deux générations. Et les relations ont toujours été bonnes et puis surtout, un grand nombre ont la double nationalité ivoirienne et libanaise. Bon. Par ailleurs, l'environnement politique, sécuritaire du Liban est loin d'être apaisé. Donc, les Libanais considèrent que la Côte d'Ivoire, c'est leur deuxième pays, voire pour certains, leur premier pays.
C'était Daniel Brecha, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire.
J'ai vu dans ton regard l'histoire d'un homme paniqué. Comme la vie nous a donné, t'es parti sans aucune idée. J'ai détruit les yeux, tu veux garder ta dignité. Alors t'as pris la route pour l'Europe et ses qualités. On t'a vendu du rêve. Perdu un tas d'amis. Tout ce que tu voulais, c'était rejoindre l'Italie. T'as fait confiance aux hommes. Mauvaise idée, mauvaise idée. T'as fait confiance aux hommes.
Mauvaise idée, mauvaise idée.
Blotti dans le désert, loin de chez toi et ta famille. Un bidon d'eau pour 10, c'est pas ce qu'on t'avait promis.
Il n'y a plus que.
J'ai vu dans ton regard l'histoire d'un homme paniqué. Comme la vie nous a donné, t'es parti sans aucune idée. J'ai détruit les yeux, tu veux garder ta dignité. Alors t'as pris la route pour l'Europe et tes qualités.
Voilà, on se quitte sur ce beau titre choisi par Sims Lumami qui a réalisé cette édition. Merci également à Cedric Franklin à la console. Moi, c'est Abdourahman Dia. Je vous souhaite un excellent week-end. Restez en contact avec nous sur notre page Facebook et également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont engagés à étendre leur partenariat économique et culturel avec l'Irak, a dit le secrétaire d'État adjoint John Sullivan lors d'un récent voyage à Bagdad. M. Sullivan a félicité le peuple irakien et les forces de sécurité irakiennes, dont beaucoup des membres ont perdu la vie en combattant le groupe État islamique pour libérer leur patrie. Le groupe État islamique et son idéologie demeurent le vrai ennemi de l'Irak. C'est pourquoi le peuple irakien et la coalition internationale de 74 pays se concentreront sur l'élimination de cette menace. L'unité est la meilleure arme de l'Irak contre le groupe État islamique, a déclaré le secrétaire d'État John Sullivan. Ce dernier a souligné le besoin d'un dialogue continu entre le gouvernement irakien et le gouvernement régional du Kurdistan. Les États-Unis soutiennent un Irak fédéral, prospère, uni et démocratique, en phase avec les aspirations de tous les Irakiens. Les États-Unis sont engagés à assister les victimes des atrocités du groupe État islamique, promouvoir la liberté religieuse et protéger la diversité religieuse et pluralisme. Un exemple de cet engagement ferme et visible dans l'œuvre des partenaires financés par les États-Unis et qui ont enlevé plus de 42 tonnes d'explosifs dans les provinces d'Anbar et de Ninive. Les États-Unis ont aussi fourni plus de 1,7 milliard de dollars en assistance humanitaire depuis 2014, en faveur des Irakiens déplacés par le groupe État islamique. À ces fonds s'ajoutent aux plus de 190 millions de soutien au projet de stabilisation administré par les Nations Unies, ce qui a permis à plus de 3 millions de déplacés irakiens de retourner chez eux. Toutefois, pour sauvegarder une stabilisation durable à travers le pays, l'Irak doit se construire. Le seul moyen de parvenir à un succès durable est d'encourager les investissements du secteur privé et la croissance. C'est pourquoi les États-Unis soutiennent fermement la conférence sur la construction prévue en février au Koweït. Les États-Unis soutiennent également la décision du Premier ministre Haider al-Abadi d'organiser les élections le 12 mai prochain, conformément à la constitution irakienne. Tous les Irakiens doivent savoir que l'État qu'ils ont créé et pour lequel ils ont lutté se lèvera pour défendre leurs droits, a déclaré le secrétaire d'État John Sullivan. Ensemble, nos gouvernements et nos peuples peuvent surmonter les défis auxquels nous faisons face et sécuriser un Irak souverain, stable, unifié et démocratique qui renforce les aspirations des pays.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.